Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous, bienvenue pour Ici l'Europe, un magazine proposé par France 24 et RFI. Alors nous nous tournons cette semaine en direction des Balkans, vers un petit pays de 2 millions d'habitants qui n'a toujours pas de nom officiel, puisque les Grecs refusent qu'on l'appelle Macédoine. Et pour en parler aujourd'hui, nous recevons sa ministre de la Défense. Bonjour Radmila Sekerinska.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur de formation, puis vous bifurquez vers le droit, un choix qui vous emmène très vite vers la politique. Vous militez à l'Union social-démocrate de Macédoine, un parti pro-européen de centre-gauche qui a émergé dans les années 90, au moment où votre pays sort du giron de l'ex-république de Yougoslavie. Avec l'indépendance, ont ressurgi les questions identitaires, nationalistes. Un quart de la population est albanophone, musulmane. La majorité est slave macédonienne. En 2005, vous avez joué un rôle très important puisque c'est vous qui avez mené les négociations avec l'Europe. Votre pays obtient le statut de candidat à l'Union européenne.
Alors votre parti est arrivé en tête lors des dernières élections et a formé une coalition avec un vrai agenda européen. C'est un peu un tournant après une longue période que vous allez nous expliquer, hein, de gouvernance de la droite, mais ultranationaliste d'un certain point de vue, c'est comme ça que vous la qualifieriez ?
C'était une période assez lourde pour Macédoine. Ce n'était pas seulement un choix d'idéologie. C'était une combinaison de médias qui étaient contrôlés et puis une oppression vers l'opposition, vers ceux qui pensent différemment. Et c'était vraiment un État capturé, comme la Commission européenne a dit. C'était vraiment difficile de trouver une solution dans une situation comme ça. Et puis, on avait une crise prolongée. C'était, je pense, presque 3 ans. Et puis, après les élections, on a commencé à changer l'État. Et c'était vraiment une réforme énorme dans tous ces domaines. L'état de droit, médias, les choses qui sont importantes pour les gens, mais aussi pour le pays.
Alors, ce qui a beaucoup changé, c'est que vous avez formé une coalition avec un parti représentant les Albanais de Macédoine. Un choix qui a été immédiatement rejeté par l'opposition, qui a provoqué une vraie crise politique, avec même pas mal de violence hein, sur les bancs du Parlement. Votre histoire a été émaillé de ces conflits, de ces irruptions de violence ethnique. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que les communautés sont réconciliées ?
La Macédoine était fière de commencer son indépendance sans guerre. Toutes les autres républiques yougoslaves avaient le petit ou plus grand conflit pendant 90. Mais on avait un problème en 2001, quand le conflit interethnique était vraiment très sérieux. Et c'était l'Union européenne, c'était l'OTAN, c'était les États-Unis qui nous aidaient de finir cette conflit. Et c'était vraiment une preuve que l'Union européenne et l'OTAN peuvent coopérer très facilement et avec succès. Notre coalition avec un parti albanais n'était pas le vrai problème, parce que on a une tradition des coalitions entre les partis différents, même les partis ethniques. Mais ce qui était différent ce temps-là, c'était que pour la première fois, c'était une partie social-démocratique qui était vue comme macédonienne ethnique, qui a gagné beaucoup de votes des Albanais. Par exemple, il y a un petit, pas vraiment petit, une municipalité qui est très proche de Skopje, de capitaux, Aracinovo. C'était une municipalité où le conflit était le plus grave en 2001. Maintenant, pendant les élections parlementaires et les élections locales, on a gagné les élections. Et c'est une municipalité avec plus de 90% des Albanais. La crise a donné une opportunité pour nous tous. Et maintenant, les communautés sont vraiment proches. Et ce n'est pas seulement la différence ethnique qui domine notre vie et notre décision.
Alors, Madame Chekherinska, il y a quand même 25 ans que les Grecs vous bloquent la route à cause du nom que vous avez choisi pour votre nation. Macédoine, c'est un nom interdit parce que, en fait, ça représente pour eux leur province historique limitrophe. Est-ce qu'ils redoutent un peu d'ailleurs des revendications territoriales? Est-ce que vous comprenez leur peur?
On avait même changé notre constitution de dire très précisément qu'il n'y a aucune prétention territoriale sur la Grèce ou tous les autres voisines. Mais ce n'était pas assez. Et malheureusement, cet conflit était vraiment, vraiment un grand problème pour la Macédoine. Il y a beaucoup de temps quand la Macédoine et la Grèce ont signé un accord entre eux et on a accepté de changer notre constitution, de changer notre symbole national. Et la seule chose que la Grèce a accepté est de ne pas fermer les portes pour l'OTAN, l'Union européenne et les autres organisations internationales. Malheureusement, ce n'était pas le cas en 2008, quand c'était le veto de la Grèce qui a bloqué notre adhésion à l'OTAN. Mais maintenant, on travaille beaucoup avec la Grèce. Et j'espère que nous sommes prêtes d'avoir une solution qui va être un grand changement, même pour la Grèce et définitivement pour la Macédoine.
Alors, grâce à l'action de votre gouvernement, une issue est enfin en vue. Les relations avec la Grèce se sont réchauffées lors du dernier sommet européen consacré aux Balkans, à Sofia. Tous les détails avec Roxane Runel.
C'est au sommet UE-Balkans du 17 mai dernier que la perspective d'un compromis a été publiquement exprimée. Une solution est enfin en vue pour résoudre un contentieux vieux d'un quart de siècle concernant le nom d'une ancienne république yougoslave. Pas question qu'elle porte le seul nom de Macédoine pour les voisins grecs, car il s'agit là du nom de leur province septentrionale. Mathieu Nimetz, envoyé spécial des Nations Unies en Macédoine.
Nous avons eu des discussions ouvertes avec les deux camps en charge de régler la question du nom. Ça a été une discussion intense dans un climat cordial et les deux parties sont déterminées à parvenir à une solution.
Candidat à l'adhésion depuis 2005, les Macédoniens ont obtenu fin avril une recommandation de la Commission européenne pour une ouverture inconditionnelle des négociations d'adhésion à l'UE. Mais comme pour leur intégration à l'OTAN, la Grèce bloque le processus. Zoran Zaïev, Premier ministre macédonien.
Si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, nous continuerons, c'est certain. Nous avons construit une amitié inconditionnelle. Nous sommes engagés à trouver une solution, mais nous espérons être dans les temps pour donner un signal positif au Conseil de l'UE et à l'OTAN, car nous espérons une invitation de la part de l'OTAN et nous attendons une date pour débuter les négociations avec l'UE.
Cette semaine, Zoran Zaïev s'est montré optimiste. Il pense qu'un accord sera trouvé avant le prochain sommet européen du mois de juin. Il a précisé que les Macédoniens seront consultés à l'automne par référendum sur le nouveau nom de leur pays.
Radmila Chekherinska, alors cette fois c'est la bonne, en juin, vous pensez qu'à ce prochain sommet européen, vous allez pouvoir entamer le processus de négociation?
Je reste optimiste parce que pour faire quelque chose aux Balkans, on doit être un peu optimiste et on doit travailler beaucoup. Et on a travaillé beaucoup. Et on a investi beaucoup dans les relations positives avec tous nos voisines. Et je peux dire qu'il y a des résultats très visibles. Par exemple, on avait des problèmes avec la Bulgarie. Mais dans les premières deux mois de notre gouvernement, on a réussi de trouver une solution. Et c'était même sans une intervention d'Europe ou de quelqu'un d'étranger, c'était une maturité de la part de deux pays de changer même l'image de Balkans. Et j'espère que le même chose va se passer avec la Grèce.
Alors avec la Grèce, plusieurs noms circulent qui pourraient vous convenir. Macédoine du Nord, Haute Macédoine, Nouvelle Macédoine. Ces formules, en fait, avec plusieurs mots sont composées, en fait, sont acceptables.
Il y avait beaucoup de débats sur cette question. Puis le dernière solution entre les deux premiers ministres a été Macédoine d'Ilinden, ce qui est historiquement très important pour Macédoine et qui n'a pas aucune implication en Grèce. Malheureusement, il y avait une réaction même en Grèce, pas aussi en Macédoine, et on a continué. On a continué avec beaucoup de créativité pour trouver une solution qui serait un investissement dans la stabilité des deux pays, mais aussi pour la région.
Alors, c'est vrai que cette question, elle est très sensible en Grèce, puisqu'il y aura bientôt des élections aussi, donc les partis les plus nationalistes sont très sensibles là-dessus. Alors, même si la question du nom est enfin réglée, même si la Commission européenne soutient l'ouverture des négociations d'adhésion, vous devrez encore surmonter pas mal de réticences de certains États membres. Est-ce que vous avez aujourd'hui le soutien, par exemple, du président français Emmanuel Macron ?
Notre premier ministre avait une rencontre à Sofia avec le président Macron et nous sommes ravis qu'il a soutenu la Macédoine sur la question de l'adhésion de l'OTAN. Mais oui, la France a une position un peu différente vers l'élargissement de l'Union européenne. Ce que je veux dire, c'est que dans le cas de la Macédoine, on ne parle pas d'adhésion à l'Union européenne. On parle seulement sur la question de commencement des négociations. Et c'est quelque chose qui est complètement différent, qui est long, qui est difficile et qui va être dépendant de notre volonté, notre pouvoir de changer, mais aussi la volonté des membres États de l'Union européenne. Et à cause de ça, j'ai utilisé les mots de président Macron, n'attendons pas. Il y a une opportunité aux Balkans. Ces opportunités ne sont pas fréquentes. Et c'est la seule fois quand l'Europe peut dire, oui, il y a un succès, même aux Balkans. Un pays qui est plein de différences ethniques, religieuses, mais c'est une démocratie fonctionnante.
Alors, il y a quand même une question qui freine aussi, évidemment, votre adhésion très importante et qui est très bien illustrée par l'ancien Premier ministre Nicolas Gruevski, qui a dirigé votre pays pendant 10 ans jusqu'en 2016, qui vient d'être condamné à 2 ans de prison pour corruption, la corruption mal endémique. Qu'est-ce que vous, brusquement, vous allez pouvoir y changer ?
Pendant la crise, on a créé une nouvelle institution qui doit s'occuper seulement sur les questions de corruption, abus de pouvoir, mais dans les échelons assez hauts. Il y avait une période assez longue quand le peuple de Macédoine pensait que les politiciens ne sont jamais coupables. Ils ne sont jamais les mêmes comme les autres. Et c'était le problème
pour... Ils sont au-dessus des lois.
Oui, c'était le problème de l'état de droit. Et je pense que les investigations, mais aussi la processus maintenant, a montré que personne ne peut être au-dessus de la loi. Et je pense que c'est un message aussi pour nous, comme un nouvel gouvernement. Mais on a commencé aussi une réforme qui a augmenté la transparence dans les institutions de la gouvernement. On parle et on travaille sur un gouvernement ouvert. Parce que quand le public, quand les journalistes, quand les médias peuvent gagner accès sur les informations, c'est une pression vers le gouvernement. Et c'est une, je pense, prévention de corruption.
Alors, les Grecs bloquaient aussi votre entrée dans l'OTAN. Mais là aussi, la route se dégage. Vous avez été reçu récemment par votre homologue américain. Les États-Unis sont plutôt favorables à votre entrée dans l'OTAN. Quels efforts avez-vous fait pour convaincre les Américains qui sont devenus très, très exigeants, très tatillons avec leurs partenaires de l'Alliance Atlantique ?
La Macédoine a travaillé beaucoup sur la question de notre adhésion à l'OTAN il y a beaucoup d'années. Et on est préparé. On a donné assez de signaux que les obligations de cette organisation vont être respectées. Maintenant, même de plus, on a parlé avec notre collègue grec. On travaille pour résoudre cette problème. Mais aussi, on a travaillé beaucoup sur la question des réformes de défense. Vers le fin de juin, On va finir avec notre nouvelle stratégie de défense qui était supportée par l'OTAN, mais aussi quelques pays membres de l'OTAN. Et on a aussi amélioré, on a augmenté notre présence dans les opérations à l'étranger. On a augmenté notre présence à Afghanistan pour 20% plus de personnel. On a augmenté notre présence à Liban et nous sommes aussi présents dans une des missions de l'Union européenne, en Bosnie. Et je pense que c'est tellement clair que Macédoine était une partenaire loyale qui peut donner beaucoup
dans l'Alliance. Alors, ce n'est pas un pays très riche, non?
Ce n'est pas un pays très grand, mais c'est une opportunité d'avoir une stabilité profonde aux Balkans. Et c'est aussi une chose importante.
Parce que aussi, il faut dire quand même que dans les Balkans et dans votre pays en particulier, se jouent les deux influences croisées, celle de la Russie qui tente d'influencer les populations slaves, la majorité hein, chez vous, et puis avec en concurrence la Turquie qui, elle, voudrait avoir davantage de prise sur la communauté albanaise musulmane. Est-ce que vous constatez ce conflit d'influence au quotidien? Comment? Et est-ce que vous vous en défiez?
C'est clair que la géopolitique est revenue, même aux Balkans, et c'est un peu plus difficile pour les pays comme la Macédoine, petit pays qui ne peuvent pas influencer les événements autour d'eux, mais qui peut être victime de tout ça. Nous sommes très clairs. Notre ambition d'être membre de l'OTAN et de l'Union européenne est assez vieux. C'était déclaré du moment de notre indépendance. Mais l'opposition de la Russie de cette décision stratégique, ça c'est nouvelle. Et on a dit que nous sommes dit que notre volonté, notre choix est d'avoir des relations positives, amicales avec la Russie. Mais les décisions stratégiques, les décisions sur la Macédoine sont macédoniennes. Et c'est clair que s'il n'y a pas un optimisme sur notre route européenne et sur notre adhésion à l'OTAN, les autres influences vont devenir plus fortes.
Économique aussi, hein, parce qu'il y a des investissements. On parle aussi d'investissements dans la région
oui.
Et chez vous.
Nous sommes ouverts pour les investissements. Il n'y a pas vraiment investissements russes, mais il y a des investissements turcs. Notre porte sont ouvertes, mais il y a des politiques, il y a une choix stratégique, et notre choix stratégique était fait il y a 25 ans.
Alors, Radmila Shekerinska, une question d'actualité. Les Irlandais viennent de dire un oui massif au droit à l'avortement, un droit qui régresse chez vous, d'après le Conseil de l'Europe. Est-ce que votre gouvernement a l'intention de revenir sur ce texte pour faire un texte plus favorable aux femmes?
Définitivement, oui. Et c'est déjà préparé par les deux ministères qui s'occupent de ce domaine. Même comme opposition, nous avons opposé cette loi beaucoup. Et je pense que la décision en Irlande était une bonne nouvelle pour les femmes autour d'Europe. Parce que ce n'est pas seulement en Irlande, il y a des autres pays qui ont changé leur loi pour le pire. Aussi en Macédoine, mais c'était clair que les femmes en Macédoine ont opposé ce changement. Et maintenant, ce sera plus facile de donner les droits pour les femmes.
Merci d'avoir été notre invitée, Radmila Shekerinska.
Merci. Merci à tous de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur France 24 ou bien sur Radio France Internationale.